CJSO 101.7, La Tribune. Une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la tribune. Voici Sylvain Rochon.
Bonjour tout le monde. Ce sera demain, 8 mars, la Journée internationale des femmes. On la souligne avec quelques heures d'avance. Je vais m'entretenir ce midi avec Françoise David, Shirley St. James, Christine Marchand, Nicole Aubame-Sawin, Annick Corbeil, Diane-Marie Racicot, Patricia Salva, Corinna Bastiani et Susanna Ochoa-Vega. La tribune, après la pause.
En hiver comme en été, avoir un bon système de climatisation et de chauffage, c'est la clé du confort à la maison. Climatisation Jimmy Chassé fait la vente, l'installation et la réparation de systèmes Mural, de systèmes de climatisation centrale, d'air climatisé et de thermopompes. En exclusivité régionale, nous avons pour vous les produits Daikin, les meilleures thermopompes au monde. À votre service depuis plus de 13 ans, Climatisation Jimmy Chassé, au 4210 Route Marie-Victorin et au 450-855-1776. Psst, reste à l'affût. Ce printemps, nous saurons vous surprendre.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 29 mars, profitez de notre promotion des économies bien mijotées. Plus vous achetez, plus vous économisez sur les électroménagers KitchenAid. Achetez 3 électroménagers admissibles, économisez 300 $ additionnels. Achetez 4 électroménagers admissibles, économisez 400 $ additionnels. Achetez 5 électroménagers admissibles, économisez 500 $ additionnels. Venez rencontrer nos spécialistes qui sauront vous guider. Profitez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Oui, alors c'est ça. Nous prenons quelques heures d'avance et soulignons ce midi la Journée internationale des droits des femmes. Françoise David est une militante féministe, ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec. Elle fut porte-parole d'Options citoyennes puis de Québec solidaire. Elle a représenté la circonscription de Gouin à l'Assemblée nationale de 2012 à 2017. Bonjour Françoise David, heureux de vous retrouver.
Bonjour.
Vous organisiez en 1995 la marche des femmes contre la pauvreté, du pain et des roses, dont toutes celles et tous ceux qui sont en âge de se souvenir se souviennent. Puis vous récidiviez en 2000 avec la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence. Les femmes ont-elles depuis 23 ans, 28 ans, parcouru beaucoup de chemin, vous trouvez?
Oui, quoique je dirais que les années les plus profitables aux femmes, disons, là où les femmes ont tout changé, ça a été plus les années 70-80. Il faut dire qu'on partait de tellement loin dans la famille, alors que les mères de famille s'occupaient bien davantage des enfants que les pères. Là, je vous parle des années 50, 60, 70. Elles ne jouissaient même pas de ce qu'on appelle l'autorité parentale. Donc, par exemple, elles ne pouvaient pas donner la permission à un médecin pour opérer un enfant. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé là sur le plan juridique. Toute la reconnaissance des violences faites aux femmes comme des gestes criminels et non pas relevant simplement de la sphère privée. Depuis ce temps-là, je dirais que les luttes sont différentes. Par exemple, oui, il existe des lois, oui, il existe un code criminel qui interdit les violences à l'égard des personnes et donc, évidemment, à l'égard des femmes, mais vous avez bien vu avec le mouvement MeToo, moi aussi, que de nombreuses femmes sont encore victimes d'agressions sexuelles, d'agressions psychologiques, d'agressions physiques, et qu'elles ont de la difficulté à faire entendre leur voix, elles ont de la difficulté à ce que les gestes dont elles ont été victimes soient reconnus. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, ben, il y en a encore trop des hommes. Puis là, moi, j'ai jamais dans ma vie dit tous les hommes, et je le dirai pas plus aujourd'hui, mais il y en a encore trop qui s'imaginent que leur femme, ben, c'est leur propriété, leur femme, leur blonde, leur conjointe, là, c'est leur propriété, puis qu'elle n'a pas d'affaire à l'équité, puis elle n'a pas d'affaire à poser des questions, puis ils veulent contrôler leur vie. Alors là, c'est entre les deux oreilles que ça se passe, là. Donc, est-ce que en 2023, il faut encore parler d'éducation? Oui. Oui, parce que tout commence par là, chez les garçons et chez les filles. Donc, oui, on a évidemment avancé énormément, là, je vais faire ça court, depuis, pardon, les années 60, là. Ça, c'est clair, la Révolution tranquille a été bénéfique pour les femmes et puis pour toute l'apparition de plein d'organismes féministes, là. Mais le combat n'est pas terminé.
Ouais, vous n'avez pas parlé des CPE qui ont changé particulièrement la vie des femmes.
Ça, c'est vrai.
Ah, c'est...
Alors, mon Dieu, mais c'est parce que là, je vous ai pas fait toute la liste quand même des choses sur lesquelles on a avancé. Mais oui, la création du réseau des centres à la petite enfance est une avancée pour les femmes parce qu'elle reconnaît clairement cette avancée-là, le droit des femmes à pouvoir aller sur le marché du travail puis de sentir que leur enfant est en sécurité. Je pourrais vous parler aussi du régime québécois d'assurance parentale qui a été instauré, si ma mémoire est bonne, autour de 2002 et qui fait en sorte que les mamans sont pas obligées de retourner travailler au bout de quoi à l'époque. Là, le mieux, c'était 3 mois. Puis là, maintenant, c'est 1 an. Elles peuvent partager le congé avec le père. Donc, oui, il y en a eu là quand même des avancées, y compris dans les années 90, ouais. Début 2000. Mais depuis ce temps-là, c'est parce que les enjeux deviennent plus subtils. C'est ça que j'essayais de dire. Les lois sont là, les mesures sont là, mais... le chemin qui est encore là à parcourir, c'est beaucoup le chemin de l'éducation, de la lutte contre le sexisme.
D'accord.
Et ça, on n'a pas fini.
Oui, vous faites publier en 2004, c'est l'année de fondation d'Options citoyennes, un livre manifeste, Bien commun recherché. Puis votre quête dans ce manifeste, c'est en quelque sorte de marier l'idéal du bien commun avec la justice sociale, l'écologie et la démocratie économique. Est-ce que vous sentez que les Québécois sont de plus en plus dans cette dynamique-là?
Bien, je dirais une chose et son contraire, c'est-à-dire que c'est sûr que beaucoup de philosophes et d'analystes politiques vont parler de la montée de l'individualisme au Québec, mais bon, comme dans plein de pays du monde, je pense, on n'est pas les seuls, chacun devant son écran, hein, puis avec la pandémie, ça n'a pas arrangé les choses, là. Chacune un peu repliée sur sa famille, sur l'intime, sur le personnel. Mais c'est vrai que ça existe, je peux pas le nier, mais en même temps, moi je regarde la société québécoise aujourd'hui, je trouve que beaucoup de femmes et d'hommes au Québec sont quand même des personnes impliquées dans leur communauté. Ça peut être d'accompagner les enfants qui vont faire du sport le samedi, ça peut être d'être sur le conseil d'administration d'un centre à la petite enfance ou un conseil d'établissement d'école. Les organismes communautaires regorgent de personnes bénévoles. Donc, il y a, tu sais, il y a les deux. Il y a aussi au Québec quand même, moi je trouve, beaucoup de personnes engagées dans le mouvement des femmes, engagées dans les mouvements écologistes, par exemple, dans les syndicats, bien sûr, dans les associations citoyennes. On a les deux. On a les deux. Je trouve pas que c'est pire ou meilleur qu'avant. C'est parfois plus discret. C'est sûr que les bonnes actions, ça fait pas la une des médias. Sauf quand il y a des gros, gros problèmes. Dans telle région, un comité de citoyens s'oppose, mettons, à l'agrandissement d'un dépotoir. Bon, ça va finir par se savoir. Mais toutes ces heures bénévoles là, que les gens donnent à l'année longue pour aider d'autres...
On n'en parle pas beaucoup.
Non.
Ouais, on devrait en parler plus.
Les proches aidantes, hein, ouais. Avec une population qui vieillit, ce sont les femmes qui sont majoritairement des proches aidantes, d'ailleurs, et qui, tous les jours, s'occupent d'une personne malade ou aînée. On n'en parle pas tant que ça, mais ça existe aussi.
Françoise David, on a fait de la politique dans la famille David, d'arrière-grand-père à arrière-petite-fille. Il y a eu Laurent Olivier, votre arrière-grand-père, Athanase, votre grand-père, maître d'œuvre, d'ailleurs, de plusieurs mesures sociales et culturelles du gouvernement Taschereau. Votre père, Paul, cardiologue et homme politique. Puis enfin, vous et votre sœur Hélène, vous avez pris votre retraite de la politique en 2017. Est-ce que vous vous ennuyez de l'Assemblée nationale par moment?
Jamais. Non, jamais. Comme une citoyenne informée, là, parce que je l'ai toujours été, je le suis encore. Bon, je regarde ce qui se passe là-bas. Je suis quand même, là, je suis au courant de ce qui se passe dans le monde politique, surtout au Québec, un peu aussi à Ottawa. Donc, je demeure une citoyenne engagée, puis dans ma vie de tous les jours, je lis, je donne des conférences. Il y a des jeunes qui me demandent pour me rencontrer parce que elles, souvent, c'est un travail scolaire à faire et j'accepte toujours parce que je suis pas capable de dire non aux jeunes. Donc, ma manière de m'engager a beaucoup changé, mais elle demeure. Et il faut savoir que, vous voyez, ça, c'est tellement caractéristique, je trouve, de nos sociétés modernes, là. On parle beaucoup des hommes qui nous ont précédés. C'est vrai que ces hommes-là, entre autres dans ma famille, ont été des personnages publics. Je peux pas le nier, puis j'adorais mon père. Mais j'ai eu une mère aussi
Mais oui, mais oui.
Et j'ai eu des grands-mères, dont l'une, Antonia Nantel, par exemple, vient d'être, il y a à peine un an, reconnue comme cofondatrice de l'Orchestre symphonique de Montréal. Ça aura pris je ne sais combien d'années pour que finalement ça soit reconnu. Ça aussi, c'est intéressant. Je trouve qu'on commence au Québec et ailleurs probablement aussi à reconnaître davantage ce que des femmes d'exception, très souvent bénévolement d'ailleurs, ont accompli au Québec, que ce soit hier ou que ce soit aujourd'hui. Et ça m'amène à dire d'ailleurs, si j'ai encore 20 secondes...
Vous en avez 20.
OK. Que là, on va se retrouver devant l'espèce de grand messe collective qui s'appelle la négociation des employés du secteur public. Là, ça revient à tous les 4 ans au Québec. Et déjà, le gouvernement et les syndicats, bon, il y a des petites frictions. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Ce que je veux juste dire, je veux qu'on remarque quelque chose ensemble parce que c'est le 8 mars demain, là. 75% des employés de l'État sont des femmes. Tu sais, on parle des enseignants, ce sont des enseignantes.
Mm-hmm.
On parle des infirmières, parce qu'à 80%...
Là, on n'a pas le choix de dire infirmières, là.
Hein? Puis les éducatrices en service de garde, 90% des femmes. Autrement dit, quand on va assister à tous ces débats-là, là, dans les 2 prochaines années, il faudra jamais oublier que toutes ces femmes qui ont tellement donné durant la pandémie et à qui on a dit merci à de nombreuses reprises, c'est elles qui sont en négociation. Alors moi, j'aimerais ça qu'on s'en rappelle,
oui,
pour se dire, OK, la chicane habituelle est un peu normale, là, mais qu'on se rappelle dans ce 8 mars là, que des femmes donnent beaucoup au Québec en ce moment.
Et merci.
S'occupent des gens.
Merci beaucoup, Françoise David.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Merci. Bonjour. Shirley St. James a enseigné 35 ans au cégep de Sorel-Tracy, sa matière, la psychologie. Bonjour, Shirley.
Bonjour, Sylvain.
85% des psychologues sont des femmes. Qu'en conclure, Shirley?
Bien, exactement comme ce que Mme David vient d'apporter comme point. La plupart des proches aidants, ce sont des femmes. Tous les métiers qui concernent le prendre soin de quelqu'un sont occupés majoritairement, très majoritairement, par des femmes, infirmières, enseignantes, éducatrices en garderie, aidantes auprès des personnes âgées. Doit-on se surprendre que 85% des psychologues soient des femmes?
Alors, douceur, compassion, ce sont des qualités plus féminines que masculines. Est-ce que je renforce un stéréotype en disant ça ou c'est ça?
Il y a des hommes qui sont très doux aussi. Mais je vous dirais que c'est plus une question de socialisation. C'est que dès notre plus jeune âge, on nous met une poupée dans les mains. Et on nous dit, occupe-toi de ses besoins et oublie que toi, tu as des besoins. Alors, ça devient comme notre mission dans la vie de s'occuper des autres, de s'occuper des besoins des autres et de s'oublier soi-même. Alors que c'est pas du tout ce qu'on fait avec les garçons. Les garçons, on va leur donner des autos, des camions, de l'équipement de sport, et on va leur dire « découvre le monde, relève des défis, développe tes habiletés ». Alors, dès la toute petite enfance, on développe des qualités différentes, on s'attend à des choses différentes.
La Journée internationale des droits des femmes, Shirley, elle vous interpelle?
Oui, bien sûr. Et j'ai peur.
Vous avez peur, dites-vous?
Oui, parce qu'on a fait beaucoup d'avancées. Il y a eu beaucoup de luttes épiques de la part des femmes pour obtenir bien souvent uniquement des miettes, comme Mme David l'a mentionné tout à l'heure. Supposément que quand les femmes faisaient des revendications, on disait « ben c'est pas le bon moment, les coffres de l'État sont vides, on peut pas vous donner ce que vous demandez ». Alors on recevait des miettes et on retournait chez nous. Et présentement, si vous regardez partout dans le monde, les droits des femmes reculent. Que ce soit aux États-Unis avec le droit pour l'avortement, qui était un acquis incontestable et qui maintenant est en train d'être complètement sabré, on revient à la case départ. Moi, ça m'inquiète. Moi, ça me fait peur.
Alors, il y a des acquis qui sont fragiles.
Oui, exactement. Tout ce qui est acquis n'est pas acquis pour toujours.
Les luttes qu'il faut encore mener, qui ne sont pas gagnées, est-ce qu'il y en a des plus prioritaires que d'autres, en terminant, Shirley?
Je ne sais pas qu'est-ce que la nouvelle génération, les jeunes femmes vont faire? Parce que les jeunes femmes ont vécu dans un monde beaucoup meilleur que celui des générations précédentes. Comment elles vont reprendre le flambeau? Je le sais pas. Quelles seront leurs priorités? Je le sais pas.
Alors, c'est à suivre. Merci beaucoup, Shirley St. James.
Ça m'a fait plaisir, Sylvain.
Merci. Christine Marchand est avocate au Centre de services scolaires Marie-Victorin. Elle est maman aussi. Bonjour, Christine.
Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous?
Très bien. Le petit dernier ne vient-il pas, d'ailleurs, de faire ses premiers pas?
Ben oui, tout à fait. 13 mois maintenant, donc ça pousse sans arrêt.
Et je vous souhaite à vous bon anniversaire avec quelques jours de retard.
Merci.
La journée internationale des droits des femmes, est-ce que c'est une journée qui vous parle et comment vous parle-t-elle?
Ah ben effectivement, oui, c'est sûr que ça me parle. Je vais faire du pouce un peu sur ce qui vient d'être dit par Mme St. James. C'est quelque chose qui me parlait peut-être moins quand j'avais une vingtaine d'années de moins parce que effectivement, tu sais, on est dans une société qui est probablement beaucoup plus favorable aux femmes qu'elle ne l'était il y a, disons, une cinquantaine d'années déjà. Par contre, tu sais, si là maintenant je vieillis, tu sais, j'ai un parcours professionnel qui est mieux étoffé, j'ai des enfants à ma charge, ce qui fait en sorte que c'est sûr que moi, il y a des choses qui me préoccupent parce que, tu sais, nous, comme jeune femme, ben effectivement, tu sais, on a accès au marché du travail, on a accès à des postes clés dans des organisations ou en gouvernance de certaines institutions, mais tu sais, faut toujours se demander à quel prix les femmes ont accès à ça, parce que tu sais, on entend souvent des miracle stories, si vous voulez, où tu as une femme qui est à la direction d'une grande organisation, qui a 4 enfants, puis elle dit ça se peut. Oui, mais la question que je me pose, c'est à quel prix? T'sais, souvent, on voit des femmes qui ont des enjeux au niveau de la santé mentale, au niveau de l'équilibre travail-famille, souhaiteraient passer plus de temps avec la famille, moins au bureau. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'on a un travail à faire pour éduquer nos enfants. Nous qui avons des jeunes enfants, on a un travail à faire pour les éduquer par rapport à un partage équitable des charges relatives à la vie familiale, la vie personnelle.
Est-ce qu'on raconte, vous êtes dans le milieu scolaire, est-ce qu'on raconte aux élèves de nos écoles primaires et secondaires les luttes qu'ont menées leurs grands-mamans et leurs arrière-grands-mamans?
Écoutez, j'aimerais pouvoir répondre à cette question-là, mais honnêtement, je n'en sais trop rien. Parce que j'imagine que dans les cours d'histoire, il y a un volet qui porte probablement là, tu sais, sur l'histoire du siècle dernier, mais est-ce que la question féministe est au cœur des cours? Là, vraiment, j'aurais de la misère à vous répondre en toute connaissance de cause.
Christine, en terminant, le combat le plus urgent à mener ou à finir pour les femmes en 2023, quel serait-il, vous pensez?
Ben, selon moi, c'est que les petites filles grandissent dans la peur. La peur de l'intimidation par les pères, la peur de la violence qui pourrait nous être faite par un conjoint, un ami, etc. Peur de s'affirmer, de donner son opinion par crainte de représailles, etc. Donc, tu sais, c'est très documenté, ça, le fait que souvent les jeunes filles vont grandir dans une peur qui, pour la majorité des garçons, est à peu près inexistante. Donc, ça, c'est une lutte qui, je pense, qui est à poursuivre, d'apprendre à nos filles qu'elles peuvent évoluer en toute sécurité, puis leur fournir un environnement qui est propice à leur sécurité et à leur plein développement.
Bon, je continue un peu avec vous parce que ma prochaine invitée va briguer par son absence, on dirait. J'examinais des statistiques en préparant l'émission. Il y a encore amplement de travail à faire pour atteindre l'égalité homme-femme. Il y a des trucs très, très ancrés dans nos habitudes. Les activités domestiques, exemple, les activités domestiques sont toujours en 2023, disent les études, bien davantage l'affaire des femmes que des hommes. Ça a-tu évolué, ça, chez... mettons, chez vos amis de couple, je ne parlerai pas du vôtre, là.
Bien, tu sais, forcément, c'est un sujet qui revient souvent sur la table quand on a des discussions entre amis ou au travail. C'est sûr qu'il y a toujours un cas, il y a toujours un 10, 20, 25 % là, si on veut être tout à fait optimiste de foyer où il y a vraiment un partage équitable du temps qui est accordé aux tâches ménagères, à l'éducation des enfants, tout ça. Mais de façon générale, ça a été dit là, par Mme St. James aussi un petit peu plus tôt. Forcément, tu sais, les filles, c'est profondément ancré dans notre éducation de prendre soin des autres. Donc, quand on a une maison, on a des enfants, ben on dirait que pour les femmes, c'est tout naturel de s'occuper du petit dernier, prendre le rendez-vous chez le médecin, s'assurer que l'habit de neige est de la bonne grandeur, etc. Mais tu sais, je pense que c'est un travail qui peut se faire, qui va s'échelonner assurément sur plusieurs générations, mais du moment où on sensibilise nos conjoints, nos conjointes, nos enfants, mais tranquillement, le monde va changer parce que, tu sais, le monde a déjà changé depuis 50, 100, 200 ans. Donc, ça va continuer à évoluer dans le bon sens, on le souhaite, mais c'est sûr qu'il faut, il faut y mettre les efforts.
Merci beaucoup, Christine Marchand. Merci, Christine.
Avec plaisir.
Alors, je souhaitais vous présenter une entrevue avec Nicole Obomsawin. On s'est parlé, ça fonctionnait. Alors, il y a sûrement eu un contretemps de son côté, mais puisque j'ai le temps, je vais vous parler d'elle. Nicole, elle est anthropologue et muséologue de formation. Elle a été directrice du Musée des Abénakis d'Odanak de 1984 à 2006. C'est un entretien qui va se transformer en hommage, finalement. Pourquoi pas? Elle a reçu en 2005 le prix Bernard Assiniwi pour ses engagements pour la promotion et la diffusion des cultures autochtones. Elle a visité des centaines d'écoles et rencontré des milliers d'étudiants au Québec pour partager une autre version de l'histoire, faire tomber les préjugés et les stéréotypes et aussi actualiser l'image là, de l'Amérindien. En 2011, l'Université de Montréal lui a remis un doctorat honoris causa. Elle est ainsi devenue la première personne autochtone à recevoir un tel honneur à l'Université de Montréal. À 16-17 ans, et j'aurais tellement aimé lui jaser de ça, c'est particulier, écoutez bien, à 16-17 ans, elle a entre les mains la loi sur les Indiens et elle est révoltée d'apprendre qu'une femme autochtone qui marie un non-autochtone perd son statut et que ses enfants ne sont pas reconnus. Oui, une femme autochtone qui marie un non-autochtone perd son statut et ses enfants ne sont pas reconnus. Nicole Obomsawin se rend compte de ça en lisant la loi sur les Indiens à 16-17 ans. Son père, elle en parle à son père, il dit « Je trouve ça normal, si tu veux rester indienne, marie un Indien. » Ben, elle a décidé, avec d'autres femmes autochtones, de militer pour faire changer ça. Et 13 ans plus tard, elles ont gagné grâce à la lutte de Nicole. Les femmes qui ont perdu leur statut et leurs enfants ont aussi pu le récupérer. Alors, c'est chouette de voir que des choses pour lesquelles on se bat ben, font partie plus tard de la vie, de notre vie et de celle des autres. Alors, on va faire une courte pause après cet entretien devenu éditorial. Et après la pause, je m'entretiens avec Annick Corbeil, Diane-Marie Racicot et Patricia Salva. À tout de suite.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
La Tribune, une présentation de Lucier et de meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Nous prenons quelques heures d'avance en soulignant ce midi à la Tribune la Journée internationale des droits des femmes. On se rend à Saint-Jude rejoindre sa mairesse Annick Corbeil. Bonjour Annick.
Bonjour Sylvain.
Non seulement deveniez-vous mairesse de Saint-Jude le 7 novembre 2021, mais sa première mairesse avec 70 % des voix. J'imagine que le 7 novembre 2021, vous ne l'oublierez jamais de votre vie.
Non, effectivement, c'était un moment très important dans ma vie de femme et de personne impliquée depuis fort longtemps dans sa communauté.
Oui, vous étiez à ce moment-là déjà depuis 12 ans conseillère municipale. Hein?
Oui, effectivement, j'ai fait mes débuts là, avec le maire, l'ancien maire, le monsieur Yves de Bellefeuille.
Et vous êtes très impliqué. Je pense que vous l'êtes encore à la maison de jeunes, les 80.
Oui, effectivement, j'en suis la directrice générale là, depuis les 12 dernières années. Là, j'ai occupé différents postes, mais maintenant, j'occupe la direction générale.
Je vous pose une question qui est le titre, Annick, là, d'un ouvrage de Pascal Navarro que j'ai eu sous la main récemment. Les femmes en politique changent-elles le monde?
Je crois que oui. Je dirais que oui, parce que notre façon de voir est très différente de celle des hommes. Je pense que les femmes ont fait éclater le plafond de verre depuis plusieurs années. Plusieurs de mes prédécesseurs se sont rendus très, très loin en politique. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que je peux suivre un petit peu leurs traces. J'envisageais de faire de la politique dès mon primaire, donc c'est quelque chose dans lequel, malgré que je n'y ai pas trempé par ma famille, c'était quelque chose qui m'attirait dès le primaire. Donc, je pense que, oui, les femmes font une différence en politique, voient les choses différemment, si les choses peuvent changer pour le mieux. Parce que les femmes, peut-être que en voyant les choses différemment, dans le sens où on a peut-être plus d'empathie sur certains dossiers, on a une façon peut-être plus maternante, sans utiliser le terme...
De façon péjorative.
De façon péjorative, là. Mais on est peut-être plus capable de voir les femmes. On a une vision d'ensemble qui est peut-être plus facile que celle des hommes. J'ai tendance à croire que les hommes ont tendance à voir les projets un à un plutôt que de les voir en globalité. J'ai l'impression que les femmes, on voit plus la forêt plutôt que de voir l'arbre.
Aux élections du 7 novembre 2021 au Québec, là, 23% des personnes élues à la mairie étaient des femmes, 76% étaient des hommes, 38% des personnes élues comme conseiller ou conseillère municipale étaient des femmes, 61% des hommes. Comment vous expliquez, Annick, que les femmes soient encore à ce point minoritaires?
Ben, voyez-vous, c'est assez difficile de compiler autant de travaux pour pouvoir être mairesse actuellement. Je peux pas rouler autant que je voudrais ma vie de femme, de famille, rouler ma famille, rouler mon travail à l'extérieur et ma tâche de mairesse. Premièrement, être mairesse dans une municipalité, si on n'est pas à sa retraite ou à sa semi-retraite, c'est assez compliqué. Ça nécessite énormément d'heures, mais moi, je trouve que c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles on a moins de femmes en politique. Personnellement, je dois mettre de côté beaucoup de choses pour arriver à mes fins. Et le travail, que ce soit dans une petite municipalité ou une grande municipalité, elle est de même envergure.
Il y a deux conseillères et quatre conseillers à Saint-Jude, puis à la MRC des Mascoutins, il y a 5 mairesses et 12 maires. Alors, c'est la minorité. Véronique Yvon disait, lorsqu'on approche les hommes pour se lancer en politique, ils pensent à ce qu'ils pourraient en retirer. Nous, disait Véronique Yvon, on pense à ce qu'on va perdre. Ça, c'est un peu ce que vous nous racontiez il y a un moment, ça.
Bien, en fait, oui. Moi, je dirais pas que c'est qu'est-ce qu'on va perdre, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va apporter. Moi, je vois pas qu'est-ce que je vais en retirer. Moi, ce que je veux, c'est le bien de ma communauté. Mm-hmm. Peu importe ce que les gens en pensent, je suis loin d'avoir fait le choix de prendre la mairie pour me mettre en évidence. C'est loin de moi quelque chose que j'aime. J'aurais été conseillère encore plus longtemps s'il avait été possible. Mais je voulais me mettre au défi, prendre la pole position, mais c'est pas quelque chose que j'aime de façon naturelle. J'aime pas plus ça que je pensais, mais j'assume mon rôle avec fierté et avec bonheur, dans le sens où je pense amener ma communauté un pas plus loin en avant.
Quelle recette, Annick, avez-vous trouvée pour concilier la vie familiale, la vie politique et la vie professionnelle? Vous disiez combien c'était compliqué, là?
Bien, en fait, j'ai pas trouvé de recette encore jusqu'à présent. Actuellement, je mets de côté beaucoup ma vie familiale. Mes enfants sont rendus pour la plupart grands. Il faut comprendre que j'en ai quand même 6. Il y en a 2 de partie de la maison, mais il en reste 4 à la maison. Ma petite dernière a 13 ans, donc elle est dans sa pleine phase adolescente. Donc, je suis quand même capable, parce que l'adolescence, c'est un dossier que je connais bien, je suis quand même capable de bien gérer le tout, mais c'est sûr que papa doit beaucoup prendre la pole position à la maison et prendre le rôle que j'ai occupé au cours des dernières années depuis que je suis élue mairesse.
Je ne voulais pas demander, je le fais en terminant, quelle relation entretenez-vous avec la Journée internationale des droits des femmes?
Ben, en fait, pour moi, c'est une journée qui est très importante dans l'année. Je me fais un malin plaisir de ramener le fait que c'est bien la journée des droits des femmes et non la fête de la femme. Lorsque la journée du 8 arrive, je prends le temps d'informer les jeunes qui fréquentent la Maison des jeunes de ce que c'est être une femme en politique et pourquoi cette journée-là existe. Pas juste être une femme en politique, mais pourquoi cette journée-là existe de partout. Parce que c'est encore nécessaire de faire la distinction entre les droits que les femmes devraient avoir et ceux qu'ils ont.
Merci beaucoup, Annick Corbeil, de nous avoir accordé cet entretien. Merci, Annick.
Merci, bonne fin de journée à vous.
Bonne fin de journée. Récit contemporain à la rencontre du conte, du théâtre et du documentaire, Le Saint mis à nu prendra l'affiche du marché des arts des jardins demain, 8 mars. On rejoint son autrice, la comédienne sorelloise Diane-Marie Récicot. Bonjour, Diane-Marie.
Bonjour. Ça me fait plaisir d'être là.
Ça, c'est un plaisir bien partagé. Le spectacle à voyager, vous l'avez présenté à plusieurs endroits?
Oui, on l'a présenté à plusieurs endroits, même en dehors de la région, là, au Québec. Puis dernièrement, on a eu un projet de la MRC pour le présenter dans certaines municipalités rurales qui a été vraiment bien accueilli. Et puis demain, c'est aussi dans le cadre du projet de la MRC qu'on sera demain chez Azimut pour le 8 mars. Pour le moment, c'est complet, mais il y a toujours des petites annulations de dernière minute quand on est dans le milieu. Alors, mais pour le moment, c'est complet.
Est-ce qu'il y a un brin d'audace dans cette aventure artistique-là? Est-ce que vous vous êtes sentie audacieuse de la mener?
Oui, tout à fait, dans le sens que j'ai eu des réactions des gens aussi, hein, un spectacle autour des saints, pourquoi? Et moi, j'ai réfléchi, je me disais, ben, c'est parce que je trouve que les saints ont été malmenés dans nos sociétés, que ce soit dans la publicité, dans la pornographie, puis j'ai voulu leur donner, comment je peux dire, des lettres de noblesse. Parce que les saints ont nourri l'humanité, dans ma tête, ils sont sacrés, on leur doit du respect. Puis j'avais le goût de faire réfléchir les femmes et les hommes à cette importance-là que les saints doivent avoir.
Mais comment l'idée vous est venue, là? Le jour que l'idée vous est venue, comment c'est arrivé?
C'est parce que moi, je suis toujours en recherche de thèmes ou de sujets pour la création de spectacles. Et puis, je tournais en rond depuis un certain temps, je cherchais des sujets, j'en trouvais pas. Je commençais à m'énerver, je me suis dit, bon, non, calme-toi, reviens à toi, qu'est-ce que t'es? Fait que là, j'ai dit, ben, je suis une femme dans un corps de femme. Et c'est comme ça que j'ai dit, hey, les saints. Oui, j'aboutis au sein de cette façon-là. Et puis, pour blaguer, j'ai dit, ben, le vagin a bien ses monologues.
Alors, pourquoi ne pas discourir sur les saints?
C'est ça, pas faire un spectacle sur les saints. Mais vous savez, on dit sur les saints, c'est des histoires de femmes et d'hommes. Même.
Ben, c'est ça. Alors moi, j'en comprends, j'ai lu un peu là-dessus, c'est un collage d'histoires, hein, les histoires de Thérèse, Mireille, Mélanie.
Oui, exactement. Et j'ai aussi l'histoire d'un petit garçon qui rêvait d'avoir des saints. Donc, je suis allée jusque-là aussi. Ça, c'était un petit peu audacieux. C'est un petit garçon qui, en grandissant, a réalisé qu'il était peut-être pas dans le bon corps, même si c'était pas la mode à l'époque, parce que ça s'est passé il y a bien longtemps. Donc, mais qui a fini par devenir une femme, dans un corps de femme. Vous savez, toutes les histoires qui sont dans le spectacle sont inspirées de faits vécus. J'ai fait énormément de rencontres et d'entrevues avec des femmes et des hommes, et j'ai colligé tout ça, j'ai créé des histoires en mettant en scène les personnages que j'avais rencontrés.
Dans le Saint mis à nu, on traite de quoi? Du bonheur d'être soi, d'acceptation, puis de différence aussi, j'imagine?
Oui, évidemment, comme je viens juste d'en parler, là, par exemple, le petit garçon, là, c'est le bonheur d'être enfin soi, c'est ce qu'il a trouvé, lui, à 45 ans, ce monsieur-là qui est devenu une femme. Ensuite de ça, et ça parle aussi d'une certaine, je réalise ça en parlant, il y a beaucoup de liberté dans mon spectacle, dans le sens que, par exemple, au niveau de l'allaitement, le droit de nourrir son enfant, où et quand les mères veulent, pas nécessairement évident partout. Je sais pas si vous en souvenez, mais dernièrement, au printemps, je pense dernier, au centre-ville de Montréal, on a demandé à une jeune femme de prendre son bébé, puis d'aller dans un encore de façon plus discrète, d'aller nourrir son bébé aux toilettes, quoi. Alors, voyez-vous, c'est ce genre de choses comme ça, ce genre de clin d'œil que je fais à l'intérieur de mon spectacle, qui font que les gens aiment le spectacle. Des fois, ils rigolent, ils rient, ils répondent aux questions. Et puis, il y a une certaine réflexion aussi. On part de là, puis, comme disent les personnes, ben, oh, ça a changé quelque chose en moi. Ça m'a nourri. Ouais. Je parle aussi, ben, évidemment, d'une histoire de Mélanie qui a perdu un sein à cause de la maladie, parce que bon, ça touche tout le monde, on le sait. Et quand on a perdu un sein, quelquefois, il y a de la pression de la part des médecins, de la famille, des amis pour avoir un implant. Et un implant, c'est un choix qui est très, très respectable. Mais elle, dans mon histoire, Mélanie a choisi de vivre avec un seul sein parce qu'elle trouve que sa féminité n'est pas dans ses seins uniquement. Donc, voyez-vous, ça aussi, c'est un petit une certaine audace.
C'est vrai. Diane-Marie Racicot, je dois vous remercier, ça passe trop vite. Le Saint-Misanu, c'est à l'affiche au Marché des Arts Desjardins, demain soir, 8 mars. C'est complet, mais comme vous dites, sait-on jamais, peut-être que des places se libéreront au plaisir de ceux qui sentent qu'ils pourraient pas être là.
Oui, je peux souhaiter une bonne journée à toutes les femmes demain et à tous les hommes aussi là, qui soutiennent la cause des femmes.
Oui, bien sûr.
Demain, le 8 mars. Bon 8 mars à tout le monde.
Merci beaucoup, Diane-Marie Racicot.
Merci.
Bonjour.
Au revoir.
Cette tribune des femmes, qui a quelques heures d'avance sur leur journée internationale, se poursuit avec Patricia Salva, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Sorel-Tracy. Bonjour, Patricia.
Bonjour, Sylvain. Bonjour, les auditeurs.
Il y a eu quelques femmes à la présidence de la Chambre, 5 vous incluant depuis 1919. Alors, Claudine Couture-Trudel, juste avant vous, Marie-France Carat, 2010-2012, Nathalie Boisvert, 1988-1989, et Lorraine Frappier,
1985-1986. C'est un bon décompte. On en est très fiers, d'ailleurs.
Le monde des affaires, est-ce encore aujourd'hui un monde majoritairement mené par des hommes, Patricia?
Je suis obligée de dire que oui. J'ai fait quelques recherches, pas très scientifiques, mais tout de même très fiables. Statistique Canada nous dit qu'en 2020, il n'y a encore qu'une seule femme sur 3 dirigeants d'entreprise. Alors, c'est quand même frappant là, quand on n'a pas l'équité à ce niveau-là, au niveau de la direction des entreprises au Canada. Puis même chose aussi, hein, faut savoir qu'au sein des conseils d'administration partout au Canada, je crois que c'est 2 femmes pour 5 dirigeants. Alors, encore là, il y a du chemin à faire.
Il y a plusieurs dirigeantes d'entreprises chez nous à Sorel-Tracy, il y en a?
Certainement, même que au fil des années, la Chambre de commerce a mis de l'avant là, les initiatives et les parcours professionnels de ces femmes-là par entrepreneuriat au féminin, pardon. Alors, c'est dans les actions là, justement qui ont vu le jour là, grâce à Linda Barabé, qui était à l'époque à l'emploi de notre belle Chambre de commerce. C'est une belle initiative, puis ça va ressusciter tout ça là, prochainement, on le souhaite bien, pour mettre de l'avant justement les beaux parcours d'entrepreneuriat féminin dans notre grande région.
Ça change la culture d'une entreprise qu'une femme la dirige. Le leadership féminin, il est différent du leadership masculin?
Moi, je crois que oui. Je crois que l'intelligence émotionnelle des femmes est à un niveau, je vais dire différent, pour pas dire un niveau différent que l'intelligence émotionnelle que les hommes peuvent avoir dans leur style de leadership. Je crois qu'effectivement, là, j'aimais bien, je crois que c'est Annick précédemment là, qui parlait là, qu'on est peut-être un peu plus maternisante, mais pas dans le sens péjoratif. Là. On aime prendre par la main, accompagner. On est vraiment inclusive dans notre leadership qui est peut-être plus approprié dans la société où est-ce qu'on vit.
La Journée internationale des femmes, en terminant, Patricia Salva, ça vous parle, ça?
Ça me parle beaucoup. Ça me parle comme maman aussi, parce que j'ai une jeune fille à la maison. Quand c'est venu le temps d'aller voter pour la première fois, il y a 2 ans, bon, un petit peu moins au courant, un petit peu moins politisé, puis je lui exprimais à ce moment-là, ne serait-ce que pour honorer toutes les femmes qui se sont battues pour que tu aies le choix aujourd'hui d'aller voter ou non. Alors, c'est très important d'honorer toutes les femmes dans les dernières décennies là, qui se sont battues et qui ont revendiqué pour qu'on ait les mêmes droits que vous, chers hommes.
Merci beaucoup, Patricia Salva. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Après la pause, Corinna Bastiani et Susanna Ochoa-Vega.
Leader centenaire, bien implanté dans toutes les régions du Québec, Lucier Dale Parizeau devient Lucier. Une nouvelle identité pour mieux représenter notre marque rassembleuse. Toujours la même écoute, toujours le même service conseil, avec une seule mission, trouver la meilleure façon de protéger vos actifs humains et financiers. Découvrez notre vision renouvelée. Lucier.co.
Chez Meubles André Beaulieu, jusqu'au 29 mars, profitez de la promotion des électroménagers fiables. Économisez jusqu'à 300 $ additionnels sur les électroménagers Maytag admissibles. Chez Meubles André Beaulieu, vous trouverez aussi une vaste sélection de mobilier de salon, de chambres à coucher et de matelas pour répondre à chacun de vos besoins. Nos conseillers sont là pour vous guider. Profitez de notre livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Pour en savoir plus, visitez lemeublebeaulieu.ca. Meubles André Beaulieu s'impose de génération en génération depuis plus de 40 ans.
La Tribune, une présentation de Lucier et de Meubles André Beaulieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Candidate à la mairie de Sorel-Tracy l'automne dernier, Corinna Bastiani souhaitait que les Sorelloises et les Sorellois lui permettent de prendre soin d'eux comme une mère de famille de ses enfants. On la rejoint immédiatement. Bonjour, Corinna. Non, ça ne fonctionne pas. Corinna, bonjour.
Oui, bonjour. Vous m'entendez bien?
Oui, on vous entend maintenant très bien. Vous ne pouviez pas proposer leadership plus féminin que ça? Dire aux Sorellois, je vais prendre soin de vous comme mairesse, comme une mère de famille prend soin de ses enfants.
Oui, disons que j'ai été peut-être mal interprétée ou surinterprétée à quelques occasions dans cette campagne électorale, parce que oui, j'ai parlé de ville féminine. On m'a même dit, accusée là, de négliger les hommes assis dans leur busy boy. C'était pas du tout l'intention. Le concept de ville féminine, c'est le concept d'une ville qui prend soin, effectivement. Parce que quand les femmes n'ont pas peur, quand les enfants n'ont pas peur, bien, les hommes sont heureux aussi, normalement. Puis écoute, Sylvain, si j'ai accepté de parler aujourd'hui, particulièrement, c'est parce que j'ai été particulièrement touchée par des actes de violence qui sont passés à proximité de mon domicile dans les derniers jours. Puis je trouve déplorable qu'encore aujourd'hui, on ait cette peur parfois qui nous envahit, quoi. Et je pense que c'est un rôle municipal, oui, de prendre soin des gens, comme François Javier l'évoquait, Shirley l'évoquait aussi, Christine en a parlé tantôt également, la femme est beaucoup plus portée à prendre soin, mais je crois que les institutions municipales devraient prendre beaucoup plus soin de leurs citoyens que de certains organismes, parfois, sans vouloir. l'institution municipale est là pour les gens. Pour prendre soin du territoire, pour veiller à ce qu'on soit bien chez nous. Et ça, oui, c'est une lutte à laquelle je continue de croire. Donc,
diriez-vous que la dernière campagne, vous en avez fait plusieurs, que la dernière campagne que vous avez menée est celle au cours de laquelle vous vous êtes le plus adressé au cœur des électeurs?
Ah, mais on me l'a beaucoup dit, ça, effectivement. C'est le commentaire qu'on m'a donné, que j'avais mené une très belle campagne. D'ailleurs, j'ai eu un très grand appui des gens suite à la campagne. Je vais profiter de la tribune pour les remercier. Mais je crois que c'est la campagne où on m'a laissé le moins parler, étrangement, même si les gens ont trouvé que j'ai mené une belle campagne. Oui, je me suis adressée au cœur des gens. C'est ce que je souhaitais. Si ceci était ressenti, tant mieux. Mais je pense qu'il faut faire de moins en moins, avec tout ce qui se passe présentement ici et ailleurs sur la Terre, avec les crises, que ce soit les crises sanitaires, les crises climatiques, les crises financières, je pense qu'il faut de plus en plus rapprocher des institutions démocratiques de la population. Parce que c'est les villes, puis je pense toujours à cette première institution-là qui est la municipalité. C'est celle qui peut vraiment agir. Ça, j'y crois, puis j'y crois toujours. Là.
Est-ce qu'il y a en politique
les gens vont finir par envahir ces institutions. Envahir au sens d'utiliser nos biens communs, notre territoire, croire à ce que la politique peut faire.
Est-ce qu'il y a en politique des attitudes que les hommes peuvent adopter, que les femmes peuvent plus difficilement adopter? Je pense notamment au caractère guerrier, là, au ton incisif. Est-il possible qu'auprès de l'électorat, ça réussisse mieux aux hommes qu'aux femmes?
Ah, ça, certainement. Écoutez, si je me suis même fait suite à la critique des médias aussi, hein, elle est quelque chose, Sylvain, puis tu m'excuseras de le dire, là. Mais au lendemain du débat, hein, j'ai peu parlé. Je suis certaine que si on numérotait le temps d'antenne des hommes durant ce débat-là, c'était particulier. C'était très particulier. Un ignorait, l'autre voulait se signer avec l'autre. Et oui, et moi, mon intention n'était pas de me battre, mais d'avancer des idées, de défendre une population. Mais quand on se fâche ou quand on rougit ou quand on dit ce qu'on pense, une femme est toujours plus méchante. Mais je pense qu'en réalité, c'est parfois le contraire.
Richelieu n'a compté de toute son histoire qu'une seule femme députée. Jamais on n'a été représenté par une femme à Ottawa. Sorel Tracy n'a jamais eu à sa tête une femme, pas plus que notre MRC, où les mairesses ne sont que deux autour de la table. Comment expliquez-vous que le pouvoir politique chez nous échappe autant aux femmes?
Ah, je ne vais pas porter d'analyse, là, ni de saut, ni de tort à quoi que ce soit, mais on est une municipalité industrialisée, là, une historique lourde d'industrialisation. Je pense, par exemple, à une citation d'un homme, de Wilfred Nelson, qui était le premier maire de Montréal, qui une citation qui a dit ici, à Sorel-Tracy, lorsqu'il a gagné sa première élection, où il a dit qu'il souhaitait que les électeurs de William Henry, qu'on s'appelait autrefois, dénommé le bourg pourri, qui s'intéresse, que jamais il ne cesse de s'intéresser aux affaires publiques. C'est mon souhait aussi. Donc, je pense que c'est pas nécessairement une question de sexe ou de genre. Vous savez, le crime qui a été commis à ma proximité de chez moi a été dans les dernières semaines. C'est un homme qui a été méchant envers une femme. Je pense qu'on est passé à quelques cheveux d'un féminicide, mais c'est un voisin. C'est un homme qui en a pris soin.
Ouais.
Donc, je pense pas qu'il faut diviser. Au contraire, je pense qu'il est temps de tous être écoféministes. Et je fais un appel aux hommes et aux femmes de s'unir.
Merci beaucoup, Corina Bastiani. Je vous souhaite à l'avance une excellente journée internationale des femmes demain. Merci beaucoup.
Des droits des femmes, monsieur.
Oui, des droits des femmes. Je l'ai dit, toute l'émission sauf cette fois-ci. Salut bien.
Oui.
Mexicaine d'origine, professeure d'espagnol, Susana Ochoa Vega, vit au Québec depuis quoi, 16 ans à peu près?
Puis depuis 16 ans.
16 ans, dès son arrivée, dès votre arrivée, Susana, vous contribuez à favoriser l'intégration des personnes immigrantes. Ça vous vaut d'ailleurs deux reconnaissances de la part de la Chambre des communes,
oui,
du Canada en 2018 et 2019. C'est en votre compagnie qu'on termine l'émission. Dites-moi, Susana, qu'inspire à la Mexicaine devenue québécoise la Journée internationale des femmes? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, d'abord, je suis venue ici parce que mon mari est québécois. Marie prend pays, hein. C'est l'amour vraiment qui m'a fait venir. Et après, voir le Québec et toute la beauté dans laquelle on vit ici, le respect que nous avons les femmes ici, et nous sommes valorisées, nous sommes respectées. La philosophie féminine des Québécoises est vraiment différente.
Chez vous, j'ai lu au Mexique, dans votre pays d'origine, j'ai lu qu'il y avait de la violence. Les femmes militent dans votre pays d'origine pour une diminution des disparités salariales, une meilleure parité dans le milieu professionnel, puis la fin du harcèlement sur les lieux de travail. Vous trouvez qu'on vit moins ça au Québec qu'au Mexique?
Ici, on vit en pleine sécurité. Dans tous les sens. Ici, les femmes, nous sommes respectées. Ici, les femmes, nous pouvons marcher dans la rue et personne ne va nous toucher. personne ne va nous manquer le respect. Ici, les femmes, nous avons le droit d'étudier, le droit d'aimer. Ici, les femmes, nous sommes libres. Les Québécoises nous apprennent à devenir indépendantes.
Vous étiez l'invité ce matin de la MRC de Pierre de Sorel. Vous avez partagé aux médias votre expérience de femme immigrante. Que souhaitez-vous que nous retenions? Que l'immigration, c'est en quelque sorte la reconstruction d'une vie?
Tout à fait. Tout à fait. L'immigration, c'est la reconstruction d'une vie. Et quand on vient ici au Québec, on voit, nous les immigrantes, soyons honnêtes, on voit tout ce que nous n'avons pas dans nos pays. La liberté, le respect, les opportunités, bien manger. Nous avons ici un avenir pour nos enfants. On va mourir en pleine liberté. On va finir nos jours très respectés. Ça, c'est une chose que nous n'avons pas chez nous.
Comment faciliter, Susanna, comment faciliter l'intégration des femmes immigrantes dans Pierre de Sorel et plus largement là, au Québec? Comment faciliter cette intégration?
Je recommande trois choses. La première, c'est vraiment nous écouter. Écoutez-nous. Parler une autre langue, c'est gênant. Surtout si nous sommes des adultes. Ça prend beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup de pratiques. Et croyez-moi que le français, c'est pas facile. Nous n'avons pas les mêmes sons que vous. Nous n'avons pas l'oreille éduquée pour différencier, reconnaître les sons. Je vous assure qu'on fait beaucoup d'efforts pour bien prononcer. C'est sûr que nous avons un accent, on va le garder.
C'est très joli. C'est très joli. Et les échanges interculturels, c'est une richesse dans une société où on grandit au contact de l'autre.
Ah, hein? Mais oui, bien sûr. Je considère que nous, les immigrants, nous avons vraiment le privilège de choisir qu'est-ce que j'aime de ma culture et je vais le retenir, je vais le garder avec moi. Qu'est-ce que j'aime de la culture québécoise, je vais les prendre. Et là, je vais faire un mélange, un bon assemblage.
Cette émission est tapissée de toutes brèves entrevues. Elle ne nous aura pas permis de faire le tour de votre parcours. Vous donnez, par ailleurs, vous parliez du français que vous avez appris.
Oui.
À votre contact, on peut apprendre l'espagnol. Vous donnez des cours d'espagnol, ai-je lu sur le net, en quelque part?
Oui, c'est ça. Espagnol pour voyager est une émission de télévision pour apprendre l'espagnol. Bien sûr, pour voyager, mais aussi pour travailler, aussi pour pouvoir parler avec les travailleurs. C'est une émission de 30 minutes et que ça passe dans plus de 20 télévisions communautaires partout la province. Une demi-heure chaque semaine, des fois la répétition. Et c'est vraiment bien populaire.
C'est déjà tout le temps que nous avons. Votre conférence devant les médias à la MRC tout à l'heure, elle sera reprise sur les médias sociaux de la MRC de Pierre de Sorel demain 8 mars. Merci beaucoup, Susanna Ochoa-Vega. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci à Québec pour nous recevoir.
Merci. Merci à l'ensemble de m'inviter pour ces passionnantes 50 minutes à l'émission la semaine prochaine. Oui ou non aux baisses d'impôts à mardi et excellente journée internationale demain des droits des femmes.